au 30 novembre 2025. LLD 49 mois, 40 000 km pour une 208 style hybride. Premier loyer 2500 euros. Offre réservée aux particuliers sous conditions de reprise et acceptation crédit par. Garantie Peugeot Care. Conditions sur Peugeot.fr. Pensez à covoiturer.
Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Juste après le journal, nous nous intéresserons à la première information du journal de Maël Hassani. En l'occurrence, ces criminels libérés avant d'avoir été jugés par faute du nombre. Ça sera donc juste après votre journal avec Jean-Yves Le Borne. Bonsoir Maël Hassani.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
20h sur Europe 1.
Europe 1 soir.
19h, 21h. Pierre de Villeneuve.
Et au sommaire donc des criminels libérés avant d'avoir été jugés.
Une situation inquiétante que notre pays va connaître cette année. L'accumulation de dossiers et le manque d'effectifs empêchent les cours d'assises de respecter des délais raisonnables pour organiser les procès. Résultat, certains accusés verront inévitablement la durée légale de leur détention provisoire dépassée. Explication dès le début de ce journal. La France doit consentir à des efforts à la mesure de notre rude époque. Déclaration d'Emmanuel Macron tout à l'heure lors de ses vœux aux armées. Le président de la République veut une rallonge de 36 milliards d'euros d'ici 2030 pour la défense nationale, vous l'entendrez. Dans ce journal également, les témoignages bouleversants d'Iraniens qui ont pu quitter le pays ces derniers jours et qui racontent l'horreur des massacres de manifestants par le régime des Mollahs. Et puis les premières conclusions à tirer après 3 jours d'audience au procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du FN.
La tendance météo, Marlène Duret.
Un temps gris et humide sur une grande partie du pays. Demain, ciel un peu plus variable, voire instable en direction du nord-ouest et les températures vont bouger assez peu.
A tout à l'heure pour la météo complète. Et donc d'abord, ce terrible constat, la justice française n'a plus les moyens en 2026 de maintenir tous les criminels en détention provisoire.
Oui, les témoignages de certains magistrats en ce début d'année sont saisissants. Face à l'accumulation des dossiers et à cause d'un sous-effectif chronique, des personnes accusées d'avoir commis les crimes les plus graves seront libérées de prison cette année avant d'avoir été jugées. Et cela en raison du dépassement de la durée légale de détention provisoire, William Molinier.
Oui, direction la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Dans cette juridiction, 19 accusés criminels vont devoir être libérés cette année car ils ne pourront pas comparaître à temps devant une cour d'assises. Si un contrôle judiciaire strict leur sera sans doute imposé, c'est malgré tout une préoccupation pour les victimes et un message catastrophique auprès de l'opinion publique. Pourtant, la création en 2019 des cours criminelles départementales était censée permettre à minima de maintenir un stock acceptable des juridictions sans jurés populaires, plus souples, plus facilement mobilisables. Il n'en a rien été, les dossiers se sont accumulés, viols aggravés, assassinats, règlements de compte au sein de la criminalité organisée. Juger comme au siècle passé n'est plus possible, plaident les magistrats. Certains d'entre eux veulent la création d'une procédure contradictoire de plaider coupable en matière criminelle, ce qui permettrait d'accélérer les procès en fixant une peine consentie. Dès lors qu'un accusé reconnaîtrait sa propre culpabilité.
Les explications de William Molinier pour Europe 1.
Dans l'actualité également, Emmanuel Macron précise ses ambitions en matière de défense dans un monde qu'il décrit comme brutal.
Le président de la République présentait ses vœux aux armées ce matin sur la base aérienne d'Istres dans les Bouches-du-Rhône. 3 quarts d'heure de discours et une volonté martelée, accélérer notre réarmement. Pour cela, Arthur Delaborde, un effort supplémentaire est annoncé dans le cadre de la loi de programmation militaire.
Dans un monde qu'il qualifie de brutal, Emmanuel Macron veut accélérer le réarmement de la France. Le chef de l'État exhorte les parlementaires à adopter rapidement le budget 2026 et demande aux industriels de défense d'augmenter leur cadence. Objectif, renforcer la puissance militaire française face au retour des rapports de force.
Pour rester libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Et pour être puissant dans ce monde si brutal, il faut faire plus vite et faire plus fort. Cela suppose que la nation consente à des efforts à la mesure de notre rude époque. L'actualisation de la loi de programmation militaire prévoit pour la période 2026-2030 un effort supplémentaire de 36 milliards d'euros.
Un message sans ambiguïté, la France doit passer à la vitesse supérieure. Emmanuel Macron appelle les industriels à entrer dans une logique d'économie de guerre et à réduire les délais de production. En toile de fond, la montée remonter des tensions autour du Groenland où des soldats français ont été envoyés pour un exercice de dissuasion. Paris veut montrer sa détermination et rappeler que la défense européenne se joue aussi aux portes de l'Arctique.
Arthur Delaborde, et vous l'avez dit Arthur, le président de la République s'est engagé à envoyer des moyens terrestres, aériens et maritimes supplémentaires au Groenland dans les prochains jours. Une quinzaine de chasseurs alpins français est déjà mobilisée sur l'île Arctique dans le cadre d'une opération européenne de dissuasion face aux velléités américaines d'annexion. Un déploiement qui n'a aucun impact pour Donald Trump, indique ce soir sa porte-parole. Le président américain qui n'a toujours pas tranché dans le dossier iranien. Si Washington laisse planer la menace d'une intervention pour mettre fin à la répression meurtrière des manifestations contre le régime des Mollahs depuis plusieurs jours, Donald Trump n'est pour l'instant toujours pas passé de la parole aux actes. L'Arabie Saoudite assure même avoir dissuadé le locataire de la Maison Blanche d'attaquer l'Iran au terme d'intenses pourparlers aux côtés d'autres pays du Golfe. Bonsoir Antoine Bienveau.
Bonsoir Maël, bonsoir à tous.
L'ampleur des massacres orchestrés par les autorités iraniennes depuis le début de la révolte semble se préciser. On parle de dizaines de milliers de morts.
Oui, en dépit de l'émoi et des menaces de la communauté internationale, le régime continue sa répression barbare. Les rares informations qui nous parviennent malgré la coupure d'Internet décrivent d'atroces massacres visant aveuglément la population civile, comme l'explique cet Iranien qui a réussi à fuir vers la Turquie.
Les gars, je viens d'arriver en Turquie. Ils tuent tout le monde. Ils tuent les enfants dans la rue. J'ai vu l'enfer en Iran ces derniers jours.
Des exactions aussi rapportées par Emmanuel Razavi, grand reporter et spécialiste du Moyen-Orient, qui n'hésite pas à parler de crimes contre l'humanité.
En Iran, il se produit des massacres de masse par le régime, évidemment. Ce matin, j'ai appris qu'une famille avait perdu ses 3 enfants abattus par les miliciens travaillant pour le régime.
En réaction, le gouvernement américain a annoncé aujourd'hui des sanctions économiques contre plusieurs responsables sécuritaires iraniens soupçonnés d'orchestrer ces massacres. Plusieurs pays, dont la Turquie et l'Arabie Saoudite, ont en revanche assuré avoir dissuadé Donald Trump de frapper militairement l'Iran, craignant un embrasement de la région.
Antoine Bienveau, et ce soir, la porte-parole de la Maison-Blanche assure que l'Iran a renoncé à 800 exécutions de manifestants prévues initialement hier. Concernant une éventuelle opération américaine dans la République islamique, toutes les options restent sur la table. Mais le New York Times affirme que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a demandé à Donald Trump de ne pas intervenir militairement.
En France, le gouvernement va-t-il passer en force sur le budget ?
Le Premier ministre va faire son choix d'ici mardi, c'est ce qu'indique ce soir son entourage. Officiellement, l'exécutif espère toujours un accord entre les différentes forces politiques à l'Assemblée pour faire adopter le projet de loi de finances avant la fin du mois. Mais tout porte à croire que le recours au 49-3 ou aux ordonnances s'imposera in fine. Lors des débats, aujourd'hui, les députés ont rejeté le retour de la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises. Le député insoumis David Guiraud relaxé des accusations d'injures publiques à caractère antisémite formulé à son encontre par un ancien député apparenté LR, Meir Habib. Au cours d'une altercation entre les deux hommes dans l'enceinte de l'Assemblée nationale en 2024, l'élu LFI avait traité son collègue de porc devant les caméras de télévision. Des faits qui ne constituent pas une infraction, indique le tribunal. Meir Habib va faire appel.
Suite du procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du FN.
Procès décisif pour l'avenir politique de Marine Le Pen, condamné en première instance à 4 ans de prison pour détournement de fonds publics et frappé d'inéligibilité pour une durée de 5 ans avec exécution provisoire. Mais depuis l'ouverture de cette deuxième audience mardi, l'horizon semble quelque peu s'éclaircir pour la chef des députés RN, Maïalène Trémollet.
Concrètement, le parti n'a rien obtenu de définitif cette semaine, mais par rapport à la première instance, le ton a changé, l'atmosphère aussi, comme l'explique l'avocat de Marine Le Pen, Rodolphe Bosselu.
En cause d'appel, on vient reconnaître que vous avez fait l'objet d'un mauvais traitement judiciaire. C'est un soulagement. Les choses sont appréhendées avec beaucoup plus de sérénité.
Parmi les signaux considérés positifs par le RN, la demande du parquet général de retirer une partie des contrats d'assistants parlementaires pour lesquels Marine Le Pen avait été condamnée en première instance. Si à ce stade la cour d'appel réserve sa réponse définitive pour le délibérer, cette demande sonne comme une preuve pour les prévenus qu'ils bénéficieront d'un véritable procès en appel dans lequel ils seront écoutés. Procès d'autant plus crucial qu'il intervient en plein cœur de la campagne des élections municipales. Candidat à sa succession à la mairie de Perpignan, Louis Alliot a ainsi demandé à la cour un renvoi de son cas pour pouvoir se consacrer à sa campagne. Renvoi qui lui a été refusé contre une possibilité d'aménager au moins partiellement son calendrier. De son côté, Marine Le Pen, dont l'audition est attendue attendu mardi, sera demain aux côtés de Franck Alizio pour soutenir sa candidature à Marseille.
Mayalène Trémollet et ce procès en appel doit s'achever mi-février. L'arrêt ne sera pas rendu avant l'été prochain. Et puis la Poste reste incontournable. Le groupe s'est chargé d'acheminer plus de 180 millions de colis en France entre les mois de novembre et décembre 2025 via ses services Colissimo, Chronopost et DPD. Chiffre en hausse de 6% par rapport aux fêtes de fin d'année de 2024. Bilan dévoilé aujourd'hui par l'entreprise. Le pic a été atteint le 1er décembre avec plus de 5 millions de livraisons en une seule journée.
Merci Maëlle. Hassani, Marlène, un épisode pluvieux débute dans le sud-est.
Effectivement, autour du golfe du Lion, on a nos entrées maritimes, nos remontées méditerranéennes qui vont continuer de s'accumuler et donner des pluies durables sur les Cévennes. Le week-end s'annonce d'ailleurs perturbé sur tout le quart sud-est. Alors samedi, les cumuls les plus importants sont attendus entre les Bouches-du-Rhône, l'Ardèche, le Gard et l'Est de l'Hérault. Dimanche et lundi, c'est dans l'Aude, les Pyrénées-Orientales et l'Est de la Corse qu'il pleuvra le plus. À surveiller. Mais revenons à la journée de demain. Donc dans le sud-est, nuages accompagnés de pluies plus ou moins marquées vont envahir le Languedoc, le sud du Massif central, avant de gagner progressivement la Provence. Quelques chutes de neige attendues dans les Alpes du Sud à partir de 1600 mètres l'après-midi. Sur le reste du pays, un temps généralement gris avec des passages pluvieux. On sera sous une perturbation. Le ciel sera un petit peu plus changeant, plus instable en allant vers le nord-ouest avec ses averses qui pourraient même s'accompagner d'un petit coup de tonnerre entre le Finistère et la Gironde. Côté température, on reste un petit peu au-dessus des moyennes de saison. Au plus doux de l'après-midi, notez 10 degrés à Rouen et Dijon, 11 à Clermont-Ferrand, à Chartres, à Nevers, à Paris, 12 à Rennes et à Toulouse. Demain, il fera 14 au Mans, à Besançon, 15 à Pau, à Béziers, à Orange, 16 à Nice et jusqu'à 17 à Ajaccio.
Merci Marlène Duré. Que penser de la justice française qui, faute de moyens et surtout de personnel, de juges, il y a trop de criminels et donc du coup ces criminels, on va les libérer parce que les délais impartis passent et ces criminels ont le droit de dire voilà, je vais retrouver la liberté. On en parle avec l'avocat et ancien bâtonnier du barreau de Paris, Jean-Yves Le Borne, notre invité dans un instant sur Europe 1.
Découvrez la nouvelle génération Renault. Découvrez Renault 5 E-Tech électrique fabriqué en France dès 160 euros par mois avec 5 740 euros de prime gouvernementale coup de pouce. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, 2 mois de loyer offert.
R5 Evolution 120 chevaux hors option. LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 2700 euros. Prix maximum certes énergie déduite si accordiac. Troisième et quatrième loyer offert. Offre à particulier du 15 au 19 janvier. Conditions Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Renault.
Et vous, il n'y a que poltrone sofa qui transforme les soldes
en or.
Sur la collection 3 pour vous, faites des affaires en or avec 50% de remise, plus 20% supplémentaire et plus 10% encore.
Ce sont les triples soldes en or.
Jusqu'à samedi, uniquement chez Poltrone Sofa.
Poltrone Sofa,
solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité. Vérifiez conditions en magasin.
Skoda. On peut décider de reprendre le sport, de moins sortir le soir, de manger plus sainement ou même de ne prendre aucune résolution. Mais acheter une voiture sans avoir essayé de Skoda, ça, on ne peut pas.
Jusqu'au 31 janvier, profitez d'un minimum de 4000 euros d'équipement offert pour l'achat d'un véhicule neuf sur toute la gamme Skoda. Détails sur skoda.fr. Rendez-vous en concession pendant nos portes ouvertes ce week-end.
Skoda. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Mieux que des soldes chez MDA. Des prix de ouf. Le lave-linge Indesit 8 kg, 1400 tours, 5 cycles rapides est à 299,99€ au lieu de 399,99€. 60 euros d'économie. Quantité limitée au stock disponible dans chaque point de vente. Voir conditions en magasin. Soldes du 7 janvier au 3 février.
MDA. Électroménager, literie, cuisine. Des arrivages permanents à prix imbattable. 180 magasins MDA et sur mda-électroménager.com.
Europe 1. Le journal permanent.
À 20h13 sur Europe 1 avec des communications de Matignon. À l'instant, le gouvernement fera des propositions sur le budget. Demain, un compromis est encore possible, dit l'entourage du Premier ministre. Deux options restent sur la table, le recours au 49.3 ou les ordonnances. Selon les informations d'Europe 1, c'est le 49.3 qui est privilégié. Le gouvernement est appelé à se tenir disponible pour un éventuel conseil des ministres ce week-end. Le sabotage continue
des députés RN et LFI rend impossible l'adoption d'un budget par un vote. Voilà, c'est ce qu'estime l'entourage de Sébastien Lecornu à l'instant. Internet toujours coupé en Iran, blackout numérique qui dure depuis une semaine pour réprimer à huis clos la révolte populaire. Pour l'heure, pas d'intervention américaine pour mettre fin au massacre malgré les menaces de Donald Trump. L'Iran a suspendu 800 exécutions prévues initialement hier. C'est ce qu'affirme la Maison Blanche. L'Arabie Saoudite, Oman et le Qatar ont averti la Maison Blanche qu'une attaque en Iran ébranlerait les marchés pétroliers, selon le New York Times et le Wall Street Journal. Les militaires français déployés au Groenland seront bientôt appuyés par des moyens supplémentaires terrestres, maritimes et aériens, annonce d'Emmanuel Macron lors de ses vœux aux armées. Les militaires français participent à une mission européenne avec la Suède, l'Allemagne et la Norvège. Le président a également appelé à accélérer le réarmement national. Il veut mobiliser 36 milliards d'euros de plus en 2030. Les agriculteurs mobilisés, à deux jours de la signature de l'accord avec le Mercosur, ils ont notamment mené des opérations de filtrage des marchandises transportées par camion en Bretagne ou encore dans les ports de Dunkerque et de Sète. Et plus de 70 tracteurs ont convergé aujourd'hui vers la préfecture du Rhône au centre de Lyon. Et puis 180 millions de colis livrés en France en novembre et décembre 2025 avant les fêtes de fin d'année. 6% de plus que l'année précédente. C'est le bilan dévoilé aujourd'hui par La Poste.
Europe 1 soir.
19h-21h, Pierre de Villeneuve.
Avec pour m'entourer Vincent Roy, bonsoir.
Bonsoir Pierre de Villeneuve.
Et Raphaël Steinville du JDD, bonsoir Raphaël.
Bonsoir Jean-Pierre.
Et notre invité Jean-Yves Le Borgne, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir maître, avocat, ancien bâtonnier du barreau de Paris. Cette information, en 2026, les juridictions françaises vont libérer des criminels faute de pouvoir les juger dans les temps. Concrètement, c'est la cour criminelle d'Aix-en-Provence qui sonne justement cette alerte. 19 accusés criminels qui devront être remis en liberté 2026, faute de pouvoir être jugés dans les délais légaux de détention. Jean-Yves Le Borgne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des délais légaux pour juger quelqu'un?
Il y a des délais légaux pour juger quelqu'un en le maintenant en détention.
C'est ça.
Dès lors que la personne est libérée, le délai ne joue plus. Et il est évident que même si ces délais sont longs, hein, on est à plus de 4 ans avec diverses prorogations, le délai de base c'est 1 an. Inutile de vous dire qu'il n'est pratiquement jamais respecté.
Là, monsieur le procureur général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, Franck Rastoul, dit... nous coulons, dit-il dans le Figaro, lorsque nous atteignons des délais de 75 mois et même plus pour juger un viol. 75 mois.
Alors, c'est combien, c'est 75 mois, par définition, la personne aura été libérée avant ce délai. Voyez-vous, moi je pense que ces propos de magistrats se réfèrent à des manques de moyens et à l'appel à des magistrats supplémentaires. Peut-être faut-il de temps en temps avoir un peu d'imagination. Il y a quelques années, on l'a oublié, il y avait une proposition qui me paraissait intéressante, parce qu'il y a deux types d'affaires. Il y a l'affaire dans laquelle les faits sont contestés, où la personne qui est jugée dit « c'est pas moi, j'ai rien fait ». Alors là, les choses sont un peu compliquées et on peut comprendre qu'il faille du temps. Et puis, il y a les autres affaires. J'aurais tendance à penser qu'elles sont majoritaires, dans lesquelles, au contraire, la personne poursuivie dit « bah oui, c'est moi ». Mais je vais vous expliquer, voilà, on est alors sur la tentative d'explication et de compréhension, autant que faire se peut, du geste criminel, pas sur le fait de savoir si c'est bien l'accusé qui est coupable. Et il y a eu, à cet égard, une idée qui consistait à faire des assises temporellement réduites, parce qu'il n'y avait pas lieu de s'attarder trop longuement sur les faits, puisque les faits que reprochait le parquet général, était reconnu par l'accusé. Eh bien, cette réforme n'a jamais eu lieu. Et puis, il y a un autre phénomène. J'allais dire, hélas, une carrière bien longue, mais il y a un certain nombre de décennies, les affaires d'assises que je connaissais duraient à peine la moitié du temps qu'elles prennent aujourd'hui.
Mais parce qu'il y avait plus de magistrats ou parce qu'il y avait moins de criminels?
Non, parce qu'on allait plus vite. Parce que l'affaire qui est aujourd'hui traitée en une semaine se réglait en 2 ou 3 jours.
Parce qu'elle est plus complexe, parce qu'il y a des garde-fous, parce qu'il y a des vices de procédure qui sont amenés par les avocats, parce que...
Je ne pense pas, notamment en matière criminelle, quand on est à la cour d'assises, les difficultés de procédure sont pour l'essentiel purgées par les temps et les actions antérieures. Non, c'est un mouvement, peut-être de crainte d'insuffisance dans l'analyse, qui fait que on parle maintenant de procès qui durent des semaines ou des mois. Alors, pour certains, entendons-nous, je n'appelle pas à l'idée qu'on brade les choses en quelques heures.
Bah là, d'une certaine manière, si on libère les criminels, c'est une façon de brader les choses, comme vous dites, Jean-Yves Le Borgne.
Oui, enfin, j'espère que ceux qu'on libère ne représentent pas des dangers particuliers pour la société.
L'histoire ne dit pas. Écoutez ce qu'on pensait ce matin à l'antenne.
Pardon, je suis obligé de vous interrompre, parce que ceux qui sont justement en détention provisoire sont parmi ceux qui sont les plus dangereux.
Pas tous, parce que il y a des détentions provisoires
c'est
qui aboutissent à des libertés. Oui, je vous dis pas, mais
mais pour vous c'est votre quotidien.
Tous les criminels.
Vous voyez des criminels tous les jours, donc évidemment pour vous
c'est sûr. Mais je vois aussi
vous
des criminels que des juges libèrent alors même qu'ils n'y sont pas contraints. Donc il faut peut-être pas faire une catégorie trop générale, trop aveugle. Il y a des distinguo à faire selon les personnes.
La différence entre Steinville et vous, c'est que lui, il voit le verre à moitié plein et vous voyez le verre à moitié vide.
Peut-être.
Alors écoutez ce qu'en pensait Nicolas Dupont-Aignan ce matin sur l'antenne.
Voilà le fameux état de droit dont on se gargarise dans notre pays. Les procédures sont tellement complexes. La France n'a pas investi dans sa justice, comme je le réclame depuis des années. On a un budget par habitant qui est la moitié de l'Allemagne pour la justice. Eh bien, on va libérer des criminels. Et les procureurs le disent dans des cérémonies des vœux devant le garde des Sceaux. Ça fait des années que je réclame la construction de 40 000 places de prison, le doublement des moyens de la justice. Et ce ne sont pas des sommes énormes, c'est 10 milliards. Et quand on voit ce qu'on dépense dans des fausses cartes vitales, quand on voit les gaspillages surréalistes, quand on voit ce qu'on met pour subventionner des éoliennes qui ne servent à rien, et on n'est même pas capable de faire fonctionner notre justice.
Réaction de Vincent Roux.
Oui, il y a quelque chose qui est quand même tout à fait impressionnant. C'est-à-dire que lorsque un procureur dit « mais on peut mettre 75 mois à juger un viol, par exemple », est-ce que ce délai énorme ne joue pas sur la qualité ensuite du jugement? Vous rendez compte, 75 mois pour reprendre une affaire, est-ce que ça ne joue pas sur la qualité même du jugement à venir, ce délai pléthorique d'une certaine façon?
Je dirais, vous voyez, c'est peut-être pas un problème de qualité du jugement, c'est un problème d'opportunité. Lorsque le jugement intervient à une trop grande distance des faits, il perd un peu de son sens. D'ailleurs, il y a ce problème qui joue pour des affaires qui ne sont pas criminelles, mais pour les mineurs. Parce que vous savez que pour les mineurs, on déclare la culpabilité, puis on voit quelques mois plus tard quelle peine il faut donner. Ça m'a toujours paru être une absurdité totale, ça. Il faut que les deux soient liés, parce que dire à quelqu'un « vous êtes coupable et maintenant vous rentrez chez vous et on verra plus tard », c'est une aberration. Mais que l'on mette si longtemps dans les affaires criminelles à juger, c'est évidemment regrettable. Alors, il ne faut pas non plus penser qu'il faut juger dans les trois mois. Savez-vous que Mme Caillot, qui avait assassiné le directeur du Figaro en mars 1914, a été jugée en juillet 1914. C'était peut-être un peu expéditif, là. Tellement expéditif...
Vous n'y étiez pas.
Non, je n'ai pas
déjà. Ça ne fait pas les affaires des avocats de la défense qui subissent l'émotion collective et qui rend plus difficile
Elle a été acquittée.
Non, mais le fait est que lorsque les procès sont très près des actes qui sont reprochés, effectivement l'émotion collective rend plus difficile une certaine sérénité de la justice. Pour autant, c'est probablement vers cela qu'il faudrait tendre.
Vous avez
évoqué la possibilité justement pour essayer d'éviter cette embolie de la justice, de trouver des solutions. Et je ne sais pas si c'était exactement cela dont vous parliez, mais c'est le plaidé coupable finalement, qui existe dans certaines matières, mais pas pour les affaires criminelles. Est-ce que pour les affaires criminelles, dès lors qu'il est acquis et que la personne a reconnu les faits, il ne serait pas opportun d'aller vers ça? Et là, je note que les avocats, dans leur immense majorité, s'y opposent.
Écoutez, moi, je ne suis pas opposé à une solution de cette nature qui me paraîtrait raisonnable. Il y a plusieurs question, enfin il y en a deux essentiellement, dans les affaires pénales, c'est la personne qui comparaît, est-elle coupable? Quand elle dit elle-même qu'elle est l'auteur des faits, ce problème-là est résolu. Et la deuxième question, c'est quelle est la peine opportune? Et voyez-vous, dans une certaine mesure, c'est pas universel, mais dans une certaine mesure, je crois que la peine qui est acceptée par celui qui va en être destinataire est la peine la plus adéquate. Parce que c'est à la fois une reconnaissance de sa responsabilité et une manière d'admettre la punition qui lui tombe sur la tête. Alors, au fond, alors, ne généralisons pas, un certain nombre d'affaires ne pourraient pas faire l'objet du plaidé coupable, comme vous dites. Bon, mais dans une certaine mesure, que ce soit selon la formule correctionnelle qui existe du plaidé coupable, ou selon une formule d'audience, mais d'audience plus réduite, c'est quelque chose à quoi il faut réfléchir.
Je voudrais terminer cet entretien, parce que le temps passe, mon cher Jean-Yves Le Borgne. Je voudrais votre réaction, même si je sais que c'est très très difficile de se prononcer. Bon, vous avez été bâtonnier, donc c'est peut-être plus facile, sur des affaires qui sont jugées et surtout défendues par des confrères. Le député LFI, David Guiraud, on s'en souvient tous, avait insulté dans la salle des quatre colonnes, c'est-à-dire la salle de l'Assemblée nationale où viennent toutes les caméras, les micros, etc., où on intervient et on interviewe les députés. Il avait insulté son collègue Meyer Habib et il l'avait traité de porc et de cochon. Il y a eu donc aujourd'hui le jugement et le député LFI David Guiraud a été relaxé. Et il a été relaxé parce que la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a estimé qu'il n'y avait pas eu d'infraction. Monsieur Meyer Habib va se pourvoir en appel, va plutôt interjeter appel. Il a estimé que tant qu'on fermera les yeux sur des insultes antisémites, on comprendra que dans ce pays, l'antisémitisme va continuer à sévir. Je voudrais avoir votre réaction.
Écoutez, je suis obligé de constater, comme vous le rappelez, que le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas d'infraction, c'est-à-dire pas d'injure et pas d'arrière-pensée antisémite derrière le propos.
Le traite de porc et de cochon. Et il est juif. Pardonnez-moi,
écoutez, moi je ne connais pas ce dossier, donc non, je suis très mal à l'aise.
C'est pas un dossier qui est, j'allais dire, obscur. C'est une scène qu'on a vue, revue, re-revue, ça a été repassé sur toutes les chaînes de télévision, c'était totalement abject, pardonnez-moi.
Le fait de traiter un homme de porc et de cochon, de qui qu'il s'agisse, est assez désagréable.
Mais quand il est juif, on sait très bien que les juifs ne mangent pas de porc et de cochon.
Est-ce pour autant une injure antisémite? J'en sais rien, c'est au tribunal d'apprécier. Comme vous le disiez, la cause est en appel, attendons que les juges se prononcent.
En fait,
si le parquet fait appel.
Non mais si les choses nous semblaient entendues, c'est parce que Monsieur Guiraud, par ses déclarations passées, par son positionnement politique, ses prises de parole depuis le 7 octobre, n'a pas fait montre d'une quelconque attention à l'égard des Français de confession juive, des Israéliens en général et des Juifs en particulier. C'est pour ça que je pense la connotation antisémite qu'on aurait pu retenir spontanément à l'encontre de Meyer Habib paraissait pour beaucoup une évidence. Mais la justice en a décidé autrement. Comme bien, dans nombre de cas, malheureusement, ces derniers temps.
Merci beaucoup, Maître Le Borgne, d'avoir été avec nous. Merci 20h27, les débats d'Europe 1 Soir se poursuivent dans un instant.
Bonjour, c'est Pascal Praud. La liberté d'expression, vous l'entendez sur Europe 1. Parce que ce qui compte, c'est vous.
Pascal Praud et vous, du lundi au vendredi, de 16h à 18h sur Europe 1.
La radio libre.
Il est 19h et vos enfants vous ont déjà demandé 11 fois « Quand est-ce qu'on mange ?» Entre ça, les devoirs, le bain et votre fils qui vous explique pourquoi les billes bleues, elles sont super rares, là, c'est pas votre meilleure soirée. Alors, vous commandez des pizzas pour toute la famille. En plus, devinez quoi? Pour un plat acheté, vous avez un plat offert sur une sélection de restaurants. Tiens, c'est votre Deliveroo. Ah,
Là, on est bien.
Offre disponible près de chez vous selon les conditions des restaurants participants sur Deliveroo.fr.
Pour votre santé, évitez de grignoter.
En janvier, c'est décidé, je me remets au sport. Alors pour garder le rythme, il y a Kia Sportage, le SUV hybride offrant jusqu'à 945 km d'autonomie, un maximum d'espace et d'équipement. À partir de 359 euros par mois sans apport. Portes ouvertes ce week-end.
Kia Sportage, machin hybride, LLD 49 mois, 40 000 km, 49 loyers de 359 euros. Offre aux particuliers jusqu'au 31 janvier si accord Kia Finance. Cycle mix de WLTP avec un plein d'essence. Garantie 7 ans, voir Kia.fr. Portes ouvertes ce week-end. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Kia, du mouvement via l'inspiration.
Merci à Catherine. Merci à Nicole, André, Mireille ou encore Patrick. Merci à toutes ces personnes qui, grâce à leur legs en faveur du Secours catholique, nous ont donné les moyens d'agir chaque jour pour les plus démunis. Sur la terre comme au ciel, continuez vous aussi le combat pour la fraternité en faisant à votre tour un legs au Secours catholique. Demandez votre brochure legs auprès de Pascal en appelant le 0805 212 213 ou sur legs.secours-catholique.org.
Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du nouveau SUV Citroën C3 Aircross et ses 7 places. Installez-vous confortablement dans votre siège Advance Confort et veuillez attacher votre ceinture. Nous vous souhaitons un agréable voyage.
Pendant les jours de l'évasion du 16 au 19 janvier, le nouveau SUV Citroën C3 Aircross est à partir de 199 euros par mois.
Citroën.
LLD 49 mois, 40 000 km, premier loyer de 2500 euros, offre à particulier jusqu'au 31 janvier sous réserve d'acceptation crédit par, détails sur citroën.fr selon réseau participant. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Waouh, c'est déjà les soldes chez Château d'Axe. Et les soldes chez Château d'Axe, c'est le design italien et le confort. Et à des prix fous jusqu'à moins 50%. N'attendez pas. Et oui, chez Château d'Axe, c'est vous les rois. Château d'Axe, fabricant de salons depuis 1948. Sur articles étiquetés soldes dans la limite des stocks disponibles.
Renault.
Vous connaissez Clio depuis 35 ans, mais saviez-vous qu'elle est aussi la muse de l'histoire depuis la nuit des temps? Aujourd'hui, Renault écrit un nouveau chapitre. Nouvelle motorisation full hybride E-Tech 160 chevaux sans recharge. 1000 km d'autonomie, Open Air Link avec Google intégré et plus de 100 applications. Pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier, découvrez nouvelle Renault Clio.
Jusqu'à 1000 km avec un plein d'essence, donnez WLTP en option selon version. Voir Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Renault.
Aesio Mutuel présente. Dis donc, tout en trop, c'est moi ou t'as pris du muscle?
Ah non, j'ai croisé Météo ce matin et vu ses prévisions, j'ai mis 8 toges.
Ah oui, mais enfin, Météo, c'est le début, hein. Elle est pas toujours fiable. Là, t'as chaud, non?
Parfois, il vaut mieux être bien couvert que trop couvert. Aesio Santé Essentielle, c'est la couverture santé simple et claire, recentrée sur ce qui vous sert vraiment et jusqu'à 20% moins cher que la concurrence. Aesio Mutuel, c'est ça la mutuelle d'aujourd'hui. Étude comparative réalisée par Minalea en 2025 sur des offres non responsables à prestations équivalentes. Détails et informations sur aesio.fr.
Europe 1, le journal permanent.
20h31, Maëlle Hassani.
Le gouvernement fera de nouvelles propositions sur le budget dès demain. Un compromis est possible, estime ce soir Matignon. Dans le même temps, l'entourage du Premier ministre dénonce le sabotage continu des députés RN et LFI qui rend, je cite, impossible l'adoption du texte par un vote. Deux options restent sur la table, 49-3 ou les ordonnances. Sébastien Lecornu doit tranché d'ici mardi. Le déploiement de troupes européennes au Groenland n'a aucun impact sur l'objectif de Donald Trump d'acquérir le territoire. Déclaration de la porte-parole de la Maison-Blanche ce soir. Des soldats français, allemands, norvégiens et suédois sont déployés sur l'île administrée par le Danemark depuis ce matin pour une mission militaire de dissuasion. Emmanuel Macron promet d'envoyer des renforts terrestres, aériens et maritimes dans les prochains jours. La Maison-Blanche qui suit toujours de près la situation en Iran. Sa porte-parole assure que 800 exécutions de manifestants prévues hier ont été suspendu par les autorités face aux menaces d'intervention dans le pays brandies par Donald Trump. L'Arabie Saoudite assure ce soir avoir dissuadé le président américain de passer à l'action après d'âpres échanges avec d'autres pays du Golfe. Plusieurs actions d'agriculteurs organisées encore aujourd'hui à deux jours de la signature du traité du Mercosur. 70 tracteurs réunis devant la préfecture du Rhône à Lyon, du foin et des déchets déversés sur la chaussée. 200 manifestants dans le centre de Dijon. Les opérations escargots dans le département de Meurthe-et-Moselle. Et puis une belle victoire pour débuter l'Euro. L'équipe de France masculine de handball s'est imposée largement face à la République tchèque à Oslo ce soir. 42-28, score final.
Merci Maël Hassani.
Europe 1 soir.
19h-21h, Pierre de Villeneuve.
Et on reviendra sur le gouvernement qui doit donc se prononcer demain, ou en tout cas feront des propositions d'évolution de la copie initiale du projet du budget. Alors que on avait pour l'instant une deadline à mardi, maintenant on a des projections à demain, tellement ce dossier est brûlant. Je voudrais qu'on revienne quand même quelques instants sur cette condamnation de non-condamnation, relax de David Guiraud, le député LFI. Et effectivement, on en parlait pendant la pause publicitaire avec Raphaël Steinville, il y a eu David Guiraud s'est notamment illustré après le 7 octobre dans ce voyage en Tunisie, où ce n'est cette séquence où il était avec d'autres personnes, où il était complètement dans la négation du 7 octobre.
Négation du 7 octobre et imputant à Israël des crimes qu'ils n'ont pas commis. Donc c'était absolument insupportable. Mais ce qui est constant aujourd'hui...
En mode table ronde, hein, on s'en souvient.
En mode table ronde, c'est à peine s'il ne fumait pas la chicha pour...
oui, je me souviens qu'on avait dit ça, oui.
Non, mais
c'était délirant.
Il y avait une sorte d'affaissement, pas seulement physique, mais moral, intellectuel, politique, qui était absolument sidérant. Ce qui est encore plus sidérant, c'est de voir que la justice, depuis le 7 octobre, et en dépit d'un certain nombre de déclarations, sinon antisémites, en tout cas qui fleuraient bon l'antisémite, n'a jamais jugé bon aujourd'hui de condamner aucun responsable de LFI à ce titre, alors que c'est de plus en plus documenté. C'est à se poser la question de savoir si les juridictions qui sont appelées à juger les députés ou les représentants de LFI ne sont pas elles-mêmes aux mains d'un certain nombre de juges très politisés et qui se refusent finalement à condamner LFI.
Vincent Roy.
Et il y a aussi quelque chose, je trouve, de très frappant chez M. Guiraud, c'est l'état de provocation permanent. C'est-à-dire que il a remarqué, à l'instar de...
Ça, c'est l'école Mélenchon, de tout
insurrectionné. C'est ce que j'allais dire.
Tout conflictualisé.
Tout Mélenchon, que la provocation à outrance payait. Enfin, du moins, il le pense. Nous verrons si elle paie. On n'en sait rien. 2027 sera le moment de voir si elle paie ou pas. En tous les cas, polémiquer, cliver, allez-y, avec toute l'outrance dont vous êtes capable, il en restera toujours quelque chose. Voilà ce qu'il pense. Alors, là où, évidemment, je mets un bémol à mes propos, c'est qu'on peut jouer de l'outrance dans bien des domaines. Quand il s'agit d'antisémitisme, c'est quand même un peu plus délicat, et on est un peu interdit lorsqu'on voit une décision de la Cour, parce que dans les images, effectivement, Pierre, vous le rappeliez, qu'on a tous en tête, la provocation antisémite est vraiment affichée, assumée.
Mais oui,
je veux dire, monsieur Guiraud, c'est exactement ce qu'il dit. Alors, de deux choses l'une, ou monsieur Guiraud, en traitant Meir Habib de porc, ne sait pas ce qu'il dit, et s'il ne sait pas ce qu'il dit, c'est un imbécile. Je ne pense pas ça. Je pense que c'est un provocateur, un outrancier, mais pas un imbécile. Sinon, il n'aurait pas utilisé ces mots-là. Ce qui caractérise, et là je suis dans cette matière, à rebours de la décision, évidemment, de la 17e chambre.
Et ça a scandalisé, évidemment, maître Olivier Pardo, l'avocat de Meir Habib, qui intervient de temps en temps, d'ailleurs, sur les plateaux de CNews. Il dénonce un jugement empreint de juridisme et totalement hors sol. Il dit, voilà, tout le monde sait que porc et cochon, c'est la plus vieille insulte antisémite. Regrettant que les juges aient considéré que son client avait été attaqué parce qu'il conteste le génocide et non en raison de sa judéité. Je rappelle ce que dit Meir Habib, qui va donc faire appel. Tant qu'on fermera les yeux sur des insultes antisémites, on comprendra que dans ce pays, l'antisémitisme va continuer à sévir. Voilà, et on sait qu'au gouvernement, Aurore Berger porte le sujet de l'antisémitisme avec ses assises contre l'antisémitisme dont on attend les résultats. Je dis juste une dernière chose concernant le côté insurrectionnel de David Guiraud. Voilà ce qu'il dit sur X, juste après cette... La justice est passée, son jugement est sans appel, Meir Habib a perdu. Oui, enfin, en attendant, il y a un appel, donc... Ouais. Quand il y a un appel, c'est que l'histoire n'est pas finie. Le budget, le gouvernement juge impossible l'adoption du budget par vote. Il le dit ce soir, il le reconnaît ce jeudi soir. C'est l'entourage du Premier ministre qui le dit. Matignon accuse le RN et LFI d'un sabotage continu qui rend désormais impossible l'adoption d'un budget par vote, rendant inéluctable l'utilisation d'un outil du parlementarisme rationalisé, soit le 49-3, soit une ordonnance pour que la France ait un budget. L'entourage de Sébastien Lecornu rappelle que le déficit à ce stade des discussions atteint 5,3% du PIB, dépassant donc de 0,3% l'objectif du gouvernement. Le calendrier s'accélère, en tout cas, sur l'adoption d'un budget. J'aime pas dire le terme par la force, mais que ce soit ordonnance ou 49-3, c'est factuel, Vincent Roy.
Bah oui, ce sera par la force. Moi, je ne crois plus. Alors, si on en croit M. Lecornu, qui ne veut pas user ni abuser du 49-3, qui se prive d'ailleurs d'une arme tout à fait constitutionnelle, ce serait plutôt par ordonnance. Mais enfin, de toute façon, depuis le départ, je ne vois pas comment on pouvait manœuvrer autrement. Donc, je ne suis pas surpris par cette annonce du gouvernement, pour être très franc.
Ravel Saint-Ville.
Oui, moi je pense que Sébastien Lecornu a compris que, après avoir, pour essayer de donner des gages à la gauche, et notamment au Parti Socialiste, renoncé au 49-3, il n'aurait pas d'autre issue que de l'utiliser pour faire adopter son budget. Je ne crois pas au fait qu'il puisse passer son budget par ordonnance, parce que ça créerait un tel précédent. Ça serait la première fois que ce serait utilisé.
Sur le budget.
Qu'il y a fort à craindre que nombre de personnes dans son entourage l'alertent sur le risque qu'il ferait passer en l'utilisant, notamment si le Rassemblement National demain arrivait au pouvoir. Parce qu'on explique que le Rassemblement National gouvernerait par ordonnance pour partie, faute de pouvoir obtenir une majorité. Et donc, ça créerait un précédent. Donc moi, je pense qu'il va passer par 49-3. Il le fera d'autant plus volontiers qu'il sait qu'aujourd'hui, les socialistes et les républicains souhaitent qu'il actionne ce levier parce que la perspective d'une motion de censure, d'une dissolution de l'Assemblée nationale leur serait fatale, et donc il pousse pour que le Premier ministre consente à revenir sur cette promesse qu'il avait faite de ne pas utiliser le 49-3.
Donc oui. il ne joue pas la France, quoi.
Qu'est-ce que vous appelez jouer la France, Vincent Roy?
Ils veulent garder leur poste, puisqu'ils ne veulent pas de motion de censure, ils ne veulent pas perdre leur poste, donc ils ne jouent pas la France.
Non, mais vous avez raison qu'il y a une contradiction. Après, est-ce que... Mais en fait, c'est d'ailleurs tout l'argumentaire déployé par le Premier ministre aujourd'hui, qui est de dire que ne pas avoir de budget, c'est accélérer la ruine de la France, et que la stabilité est nécessaire. Donc, son objectif, on l'aura compris, c'est de durer, mais il s'est trouvé des alliés très objectifs pour l'accompagner jusqu'au terme de ce naufrage.
Non, mais moi, j'ai quand même beaucoup cru aux prestations de M. Retailleau lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Il y a quand même des choses qui se faisaient. Cet homme paraissait quand même à avoir une colonne vertébrale. Et quand je l'entends hier matin nous expliquer, ah ben non, on ne censure pas, puisque j'avais dit, si M. Macron vote le Mercosur, nous censurerons. Si il ne vote pas le Mercosur, nous ne censurerons pas. J'écoutais ça, je me disais, mais M. Retailleau est encore parvient sur la liste de tous ceux qui se foutent de moi. C'est incompréhensible comme discours.
D'accord avec ça,
monsieur. C'est de la tambouille politique. Il est comme les autres. Il est comme les autres. Et ça m'a foutu en colère. Ça m'a foutu en colère d'abord parce que je me suis trompé sur lui. Mais enfin, je me trompe tous les jours. En politique, on se trompe beaucoup. Enfin, moi en particulier, je me trompe beaucoup. Mais je croyais que ce type avait une colonne vertébrale. Et là, j'ai vu que finalement, ben non, il était comme les autres, quoi. C'est-à-dire que quand il fallait aller à la soupe, on allait à la soupe, quoi. Ça vaut pas mieux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, je suis très déçu. Et en colère.
Moi, je le vois. Je vous ai jamais vu en colère comme ça.
Je rejoins Vincent Roy, mais je l'explique aussi par le fait que Bruno Retailleau est un président des Républicains fragilisé par des députés qui ne l'écoutent pas, ne le suivraient pas si d'aventure il concédait à donner l'ordre de voter.
Ils ont écouté Laurent Wauquiez, le chef de file des députés, et non pas Bruno Retailleau qui avait dit le contraire.
Et donc il a trouvé un artifice pour essayer de maintenir les apparences, mais avec la sagacité qui est la vôtre, vous avez levé les lièvres.
20h43, tous les jours dès 5h, vous avez rendez-vous avec Alexandre Lemaire et toute la rédaction d'Europe 1 pour Europe 1. Bonjour, premier tour complet de l'actualité, la météo, la revue de presse internationale, les pronostics hippiques, les prescriptions culture de la rédaction Europe 1. Bonjour, c'est de 5h à 7h, c'est tous les jours sur Europe 1, la radio libre. Et nous, on revient dans un instant dans Europe 1 Soir.
Bonjour, c'est Eliott Deval. La liberté d'expression, vous l'entendez sur Europe 1, même quand elle dérange.
Eliott Deval et vous, du vendredi au dimanche, de 11h à 13h sur Europe 1.
La radio libre.
En janvier, c'est décidé, je me remets au sport. Alors pour garder le rythme, il y a Kia Sportage, le SUV hybride offrant jusqu'à 945 km d'autonomie, un maximum d'espace et d'équipement. À partir de 359 euros par mois sans apport. Portes ouvertes ce week-end.
Kia Sportage, motion hybride, LLD 49 mois, 40 000 km, 49 loyers de 359 euros. Offre aux particuliers jusqu'au 31 janvier si accord Kia finance. Cycle mix de WLTP avec un plein d'essence. Garantie 7 ans, voir Kia.fr. Portes ouvertes ce week-end. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Kia. Du mouvement via l'inspiration.
Vous êtes avec votre amoureux sur les canapés et vous jouez à qui cuisine ce soir. Vous avez rangé l'appart, il a passé l'aspi. Ça fait un partout. Ah, là, va falloir négocier. Alors vous commandez des sushis sur Deliveroo. Et lui, il étendra le linge. Même pas obligé de lui dire que vous avez profité de l'offre un plat acheté, un plat offert. Et voilà votre Deliveroo. Ah, là, on est bien.
Offre disponible près de chez vous selon les conditions des restaurants participants sur Deliveroo.fr.
Pour votre santé, évitez de grignoter.
On peut penser qu'un influenceur va nous aider à choisir notre voiture. Ou on peut faire confiance à plus de 900 000 conducteurs de Dacia Sandero en France. Voiture la plus vendue aux particuliers, découvrez-la à partir de 13 290 euros pendant les portes ouvertes du 15 au 19 janvier. Disponible avec moteur, essence plus GPL boîte auto.
Offre réservée aux particuliers, valable du 1er au 31 janvier pour Dacia Sandero Essential SE 65.9 hors option selon le tarif 2229.02 du 8 janvier 2026. Conditions sur Dacia.fr, source 3 à data novembre 2025. Pensez à covoiturer.
Europe 1. Le journal permanent.
À 9h moins le quart, Maëlle et Sani.
Le sabotage continu des députés RN et LFI rend impossible l'adoption d'un budget par un vote. C'est ce qu'affirme ce soir Matignon dans un communiqué. Mais le gouvernement espère toujours un compromis avec les différentes forces politiques. Des propositions seront formulées demain, assure l'entourage du Premier ministre. Deux options restent sur la table, 49-3 ou les ordonnances. Sébastien Lecornu devrait trancher d'ici mardi. 800 exécutions de manifestants prévues hier, finalement suspendues par les autorités iraniennes. Annonce de la porte-parole de la Maison Blanche, un renoncement face aux menaces des États-Unis d'intervenir militairement dans le pays pour mettre fin à la répression de la révolte contre le régime des Mollahs. Répression à huis clos, Internet est toujours bloqué dans la République islamique ce soir, un blackout qui dure depuis une semaine. Le déploiement de troupes européennes au Groenland n'a aucun impact sur l'objectif de Washington de s'emparer du territoire. Depuis ce matin, des soldats français, suédois, norvégiens et allemands participent à une mission européenne de dissuasion face aux velléités américaines d'annexion. Une rencontre est prévue demain entre la première ministre danoise et une délégation du Congrès américain. Une enquête pour harcèlement scolaire ayant conduit la victime à se suicider, ouverte par le parquet de Meaux. Deux jours après le décès d'une lycéenne de 17 ans, l'adolescente s'est donné la mort en gare de Mitry-Mory en Seine-et-Marne, après un rendez-vous avec le directeur de son établissement, selon la famille de la victime.
Merci Maëlle Hassani, à tout à l'heure pour l'actualité.
Europe 1 Soir,
19h-21h, Pierre de Villeneuve.
Et dernière partie d'Europe 1 Soir avec Raphaël Steinville du JDD et l'essayiste Vincent Roy. On va écouter Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, sur l'affaire du Groenland, puisque l'Union européenne a une responsabilité stratégique là-bas, au Groenland. C'est ce qu'a déclaré Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, et était en Lettonie aujourd'hui.
L'Union européenne a une responsabilité stratégique au Groenland parce que la sécurité de l'Arctique est indissociable de la nôtre. En participant à l'exercice Arctique Endurance, la France et ses partenaires assument un choix de lucidité et de solidarité avec le Danemark. Les efforts engagés par l'Union européenne et ses États membres vont dans ce sens. Ils partent des besoins opérationnels de nos armées. En matière de renforcement industriel et capacitaire, l'ancrage d'un véritable réflexe de préférence européenne est fondamental.
Alors, résultat des courses, et Emmanuel Macron l'a précisé tout à l'heure sur la base d'Istres lors des vœux aux armées, les Français vont envoyer, je crois, 15 militaires français.
Ça change tout.
Il y a un militaire suédois ou trois militaires norvégiens. Enfin,
on compte les forces armées quasiment sur les doigts de deux mains.
Et là, on a envie de dire.
Non, mais le problème est réglé. On a envie de dire.
Est-ce que j'ai bien lu ?
Non, mais en fait,
Raphaël Saint-Ville.
La France, Jean-Noël Barrot, Emmanuel Macron ne pouvaient mieux faire l'étalage de nos faiblesses qu'en participant à cet exercice. Très honnêtement, face aux Américains qui sont déjà installés au Groenland, qui disposent d'une base avec plus de 10 000 hommes, de participer à un exercice en expliquant que l'intérêt stratégique pour l'Europe, pour expliquer et justifier notre participation à cet exercice, honnêtement, c'est absolument risible. Après, Jean-Noël Barrot, il devrait se souvenir aussi que le Groenland, indépendamment du Danemark, en 1982, a voté un référendum qui était purement consultatif sur la participation économique à l'Europe. Ils ont voté contre. Donc, les liens entre le Groenland et l'Europe, ils sont déjà assez distendus.
Mmh. Il y a la couronne du Danemark qui a un lien, mais l'Europe, en tant qu'entité européenne, administrative, et bien sûr loin. Vincent Roy.
Loin. Il faut rappeler, parce que Raphaël Steinville rappelait qu'il y a 10 000 hommes, il y a 10 000 Américains dans une base, et qu'il y en avait bien plus au moment de la guerre froide. Donc c'était ouais. stratégique
oui, oui.
Pour les États-Unis.
Une des raisons, et on en revient à la guerre froide, c'est que l'Arctique est non pas détenu, mais en tout cas il est sous haut protectorat russe, c'est-à-dire que les Russes ont des positions très très fortes en Arctique. Mais et ouais. donc forcément, il y a quand Trump dit « Moi, je veux le Groenland pour des raisons stratégiques », tout le monde dit « Oui, enfin, vous êtes d'abord un agent immobilier parce que vous voulez construire, vous voulez investir, il y a des minerais, il y a du pétrole ». Certes, mais il y a quand même aussi une vision géostratégique de… je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, mais c'est une position militairement intéressante pour les États-Unis parce qu'ils seront au touche-touche avec l'Arctique et là, évidemment, c'est ce qu'on appelle un bras de fer.
Le réchauffement climatique, la fonte des glaces ouvre de nouvelles voies maritimes et le contrôle de ces voies devient plus complexe et plus importante encore qu'elle ne l'était pour les États-Unis.
Et bientôt, on n'aura plus besoin de prendre des navires brise-glace pour passer par ces voies-là.
Oui, alors pour l'instant, on en est encore loin. Et d'ailleurs, la Russie et la Chine ont pris énormément d'avance par rapport aux États-Unis parce qu'ils ont une armada de brise-glace contre les États-Unis, je crois, n'en ont qu'un seul. Mais l'enjeu, malgré tout, est crucial et je crois que Donald Trump l'a compris, pas seulement pour les questions de terres rares, de minerais qu'il pourrait exploiter, pour des enjeux de transport maritime et aussi pour la propre sécurité des États-Unis.
Sachant que les brise-glaces, c'est surtout pour le commerce.
Oui, bien sûr.
Pour transporter notamment du pétrole.
Enfin, on ne peut pas imaginer une seule seconde, de toute façon, dans l'état actuel des choses, que M. Trump s'empare du Groenland par la force, comme il l'a dit.
Mais moi, je suis très curieux de savoir ce que vont faire les 15 militaires français au Groenland.
Ah, beaucoup de choses. C'est impressionnant quand vous avez 15
Non, mais c'est honnêtement, je
c'est
parle
ridicule,
aussi
c'est
en tant
tout,
que militaire
ridicule.
De réserve. Je suis vraiment très, très étonné de savoir, mais qu'est-ce que vont faire nos
amis? Ce sont des chasseurs alpins.
Ils sont
formés pour le froid.
Écoutez, on va le savoir, de toute façon, l'information avance, elle ne s'endort jamais, comme on le disait à une époque. Je voudrais qu'il nous reste quelques minutes pour évoquer le cas de Mona Jafarian, présidente du collectif Femmes Azadies. Elle parle de la situation en Iran, elle était sur I-24 ce matin.
C'est la plus grande protestation qu'on ait vue depuis 1979, mais en même temps, on est face à une répression qui est particulièrement sanglante. Khamenei a donné comme ordre de tirer à balles réelles à la Kalachnikov sur les manifestants. Si je reprends les chiffres de l'Iran international qui a mené une enquête, on parle de 12 000 Iraniens tués en 3 jours, 12 000. CBS vient faire une nouvelle enquête pour dire que sur les 5 derniers jours, c'était 20 000 jeunes Iraniens qui avaient été abattus dans les rues en Iran. Donc pour le moment, ils tiennent bon, ils continuent à sortir, mais on ne sait pas combien de temps ils vont pouvoir tenir face à tous ces massacres.
Avec des témoignages effarants de familles iraniennes qui vous expliquent que vous êtes convoqués par les autorités pour aller à la morgue, pour aller chercher votre proche, votre enfant qui a été tué, que vous devez payer pour ça. Donc en fait, tu payes parce qu'on a tué ton enfant et qu'après, vous n'avez pas le choix de savoir où est-ce qu'il va être enterré, etc. C'est absolument effarant ce qui se passe. Mona Jafarian, qui dans votre journal, mon cher Raphaël, dans le journal du dimanche, dit que le peuple iranien fait bugger l'idéologie de LFI. C'est un entretien avec Mona Jafarian, alors que des milliers de personnes sont tuées, on vient de l'entendre. Elle dit qu'effectivement, ce qui se passe en Iran fait complètement bugger LFI, puisqu'évidemment, même s'il s'agit d'une terre musulmane, bah, c'est plus du tout la même question qu'à Gaza. Et donc, du coup, LFI a du mal aujourd'hui à parler de cette situation en Iran.
Ils sont même très embarrassés. J'en veux pour preuve la dernière interview de Manon Aubry sur Europe 1 et CNews cette semaine, où on la sentait absolument perdue dans ses réponses. Parce qu'effectivement, comme le dit Mona Jafarian, l'Iran, cette révolution populaire, cette révolte populaire, vient contrarier tous les scénarios écrits par les LFistes. Ils n'arrivent pas à se positionner de la même manière qu'ils étaient très timorés à s'exprimer au moment de la révolte de ces femmes qui voulaient abandonner le voile en Iran, quand en France, LFI faisait la promotion du voile pour les Françaises de confession musulmane. Oui, effectivement, ils ne savent plus où ils habitent et la réalité du monde s'invite dans leur logiciel pour finalement souligner leurs incohérences.
Ouais. Il faut dire que c'est pas facile de prôner dans un pays comme le nôtre à toute force le port du voile et aller dans le même temps défendre les femmes iraniennes qui arrachent précisément leur voile pour la liberté et tout cela au péril de leur vie. C'est pas facile comme contradiction, c'est pas évident.
Mona Jafarian dans le journal du dimanche qui parle d'un palestinisme que LFI porte depuis plus de 2 ans et qui est en train de s'écrouler. Voilà ce que dit Mona Jafarian. Elle parle d'un néocolonialisme paternaliste où LFI soutient les Iraniens à condition que ces derniers aient la même vision que pour l'Iran de demain. La population iranienne scande partout. C'est notre dernière bataille. Pahlavi, Reza Pahlavi, le fils du Shah d'Iran et figure de l'opposition, va rentrer. LFI déclare au contraire tout sauf le Shah. Le peuple iranien fait bugger le système idéologique de LFI qui doit ainsi marcher sur des
En plus, c'est malhonnête intellectuellement, puisque Pahlavi, c'est le fils du Shah, mais c'est pas le retour du Shah, puisqu'il a très clairement expliqué que ce qu'il voulait, c'était donner la possibilité aux Iraniens de se déterminer soit pour une monarchie, soit pour une république, soit peut-être pour une monarchie constitutionnelle. Enfin, il dit, moi je serai le passeur, je serai celui qui donnera la liberté aux Iraniens de se déterminer pour le régime qu'ils souhaitent. Donc c'est pas du tout le retard
du Shah. C'est pas le retour de la monarchie,
pas du tout.
Ou de l'impérialisme.
Pas du tout.
Écoutez ce que disait Donald Trump à propos de l'Iran. Il a assuré que les tueries ont pris fin, mais il laisse quand même planer l'hypothèse d'une intervention américaine.
On nous a dit que les mises à mort en Iran s'arrêtent, qu'elles se sont arrêtées et qu'elles sont en train de s'arrêter. Et qu'il n'y a aucun projet d'exécution ni d'exécution. Donc on m'a assuré de sources sûres que nous en serions informés. Je suis sûr que si cela arrive, nous serons très contrariés.
Alors, pourquoi Donald Trump a pris la parole plusieurs fois menaçant l'Iran et que maintenant il se retient? Alors, il y a plusieurs sources, notamment le New York Times et Wall Street Journal, qui disent que l'Arabie Saoudite, Oman et le Qatar ont averti la Maison-Blanche qu'une attaque en Iran ébranlerait les marchés pétroliers. Est-ce que c'est la seule explication pour, j'allais dire, cette hésitation encore de Donald Trump? Mais en tout cas, c'est sur la table.
Moi, je pense qu'il y a plusieurs explications. Il y a cette explication avancée par des alliés des États-Unis. Il y a une deuxième explication, c'est qu'aujourd'hui, les Américains ne peuvent pas se projeter outre mesure et que ça viendrait presque à l'encontre de ce que Donald Trump a promis à ses sympathisants MAGA. Et puis, il y a une dernière réalité que je pense Donald Trump a aussi parfaitement identifiée, qui est que cette révolution, si elle doit aboutir au renversement de l'ayatollah et des gardiens de la révolution, ne pourra véritablement être crédible et s'installer dans la durée que si elle vient de l'intérieur et qu'une action des États-Unis ou d'Israël, une action immédiate, aurait peut-être l'effet contraire de, finalement, c'est l'effet drapeau, avec peut-être l'occasion pour les gardiens de la Révolution de reformer une unité très largement ébranlée.
Vincent Roy.
Oui. De deux choses l'une, soit les gardiens de la Révolution basculent du côté du peuple, et là on peut imaginer quelque chose, à condition que le peuple lui-même, encore une fois, se détermine. Ce qu'on peut craindre de l'autre côté, c'est que les gardiens de la Révolution eux-mêmes, en tous les cas, un certain nombre d'entre eux prennent le pouvoir, et ce ne serait pas bon non plus du tout pour le peuple. Donc, un, le peuple, deux, le peuple, trois, le peuple.
Merci beaucoup Vincent Roy, merci Raphaël Stainville. On termine par la météo.
Europe 1 soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve.
Marlène Duret, plusieurs passages pluvieux demain.
Oui, effectivement, on va commencer par la perturbation qui a donné pas mal de pluie dans le nord-ouest aujourd'hui, qui va glisser vers l'est et le sud en perdant temporairement de son activité. Elle aura tendance à faire du surplace demain. On va la retrouver de la Nouvelle-Aquitaine et du Midi-Pyrénées jusqu'à la Champagne et à l'ouest de la Lorraine, en passant par l'Auvergne, une grande partie du centre-val de Loire, de la Bourgogne et par l'Île-de-France aussi, avec un petit peu de neige sur les Pyrénées à partir de 1300 mètres. Un temps gris et humide nous attend également dans le sud-est, avec notamment nos entrées maritimes qui vont donner des pluies parfois copieuses dans le secteur des Cévennes. Le Roussillon restera au sec temporairement, puisque on attend pas mal de pluie dimanche et lundi, et on en reparlera. Un ciel plus variable et changeant va s'installer demain à l'est d'une ligne Maubeuge-Arcachon, en passant par la Touraine, avec des éclaircies, parfois des averses, notamment près du littoral atlantique entre le Finistère et la Gironde. Et pour terminer, les températures toujours un peu au-dessus des normes saisonnières, avec 9 à 15 en général, 11 à Paris, mais ça peut monter jusqu'à 16 ou 17 degrés du côté de la Côte d'Azur et de la Corse du Sud.
Merci Marlène Duret, demain même endroit, même heure, avec Stéphanie de Muru. Quant à moi, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir dimanche pour le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos.